Utsita.
Utsita.
Attitude.
Attitude.
Utsitanitude.
Une émission préposée par Radio Languedoc. Présentée par Jean Tufou. Réalisée par William Baudry.
Rodine, bonjour.
Bonjour, Jean.
Donc, je ris parce que je me demandais si je l'avais bien, si je l'avais bien dit, mais je crois que oui. J'ai mis plusieurs petits points sur le « i », donc ça va. Rodine, donc, poète pluridisciplinaire.
C'est ça.
Ça vous va ?
Ça me va très bien.
Bon, eh bien voilà, c'est vendu. Donc, ce musicien, plasticien, vidéaste, ça nous laisse quand même pas mal de portes d'entrée ou de portes de sortie, est un homme, donc, de Montpellier.
On peut dire ça. Même de... si ça me fait bizarre, mais ça fait 4 ans que j'habite à Montpellier, je crois qu'il faut que je m'habitue.
Alors donc, c'est un Montpellierain, mais qui est passé par Francfort, donc franco-allemand.
Ouais.
Qui est passé par l'Afghanistan.
Alors ça, non. Enfin, indirectement, oui, mais c'était mes parents qui y sont allés.
Mais quelque
voilà.
part.
Ça, voilà,
ça vous a marqué.
Présent dans mon imaginaire.
Ouais. Voilà, donc Afghanistan dans l'imaginaire, mais il y a ensuite donc le Liban, il y a ensuite plein d'autres, l'Égypte,
ouais.
Important.
Important, sûr. Pendant longtemps l'Égypte c'était l'endroit où j'avais vécu le plus longtemps. Ça a été détrôné finalement par la France, mais... Ça reste important pour moi.
Alors racontez-nous votre voyage. Racontez-nous. On va le faire comme si c'était un voyage, quoi.
Ouais.
C'est un voyage.
C'est un voyage. Eh bien, je suis né à Francfort, en Allemagne, précisément à Bornheim, qui est le quartier donc d'où je viens. Et puis après, mes parents ont décidé de partir au Maroc pendant 6 ans, où j'ai vécu à Salé. Bon, j'allais à l'école à Rabat, mais je vivais à Salé. Et puis ensuite, on est parti en Égypte, donc pour 8 ans, pendant 8 ans, où ma sœur est née. Et puis 2 ans au Liban, à Beyrouth. Donc en Égypte, c'était au Caire, à Héliopolis. Et finalement, je suis donc arrivé dans la région de Marseille à l'âge de 14 ans, par là. Juste avant de rentrer en seconde, en fait. J'ai fait mon lycée en France.
Donc, par là, comme vous le disiez si bien, ça fait quand même un sacré voyage. Et derrière ces voyages, ces apprentissages, cette transmission, ben, il y a des langues.
Ouais.
Alors, dites-nous tout.
Ben, y a les langues de la maison, puisque mon père était allemand. Donc déjà, à la maison, ça parlait français, allemand et anglais. Bon, mon père a appris le français en même temps que moi, on va dire. Donc, du coup, il m'a toujours parlé en français, mais l'allemand, c'était la langue de ma famille paternelle. Donc, je parlais en allemand avec ma grand-mère. Et c'est la raison pour laquelle je parle beaucoup mieux anglais qu'allemand aussi, puisque on peut dire que l'anglais a pris un peu la place de ma langue paternelle dans la situation familiale. Et il y a les langues locales, parce que mes parents n'ont jamais hésité à m'envoyer vivre dans la vraie vie, à la différence. Alors c'est une critique un peu affectueuse, mais néanmoins, à la différence de nombreux expatriés français, je suis allé par exemple à la garderie marocaine, donc où ça parlait pas du tout français avant de rentrer à l'école. Et puis par la suite, j'ai été en lycée français et en école française au Maroc et en Égypte. En Égypte, on avait des cours d'arabe à l'école, mais j'ai appris l'arabe dans la rue en jouant avec les copains du quartier, quoi. Et pareil au Liban. Au Liban, c'était différent, parce que j'étais dans un lycée franco-libanais et l'arabe était aussi en enseignement obligatoire. Ce qui a un peu chamboulé mon ordre d'apprentissage des langues, parce que j'avais anglais LV1, puis j'ai pris arabe LV2 en Égypte, et c'était pas possible au Liban, donc j'ai pris allemand LV2. Et quand je suis arrivé en France, je me suis orienté vers un cursus littéraire où j'ai pris arabe en LV3, du coup. Et arabe égyptien en option au bac aussi, qui m'a rapporté un petit point, mais néanmoins, c'était toujours ça à prendre. D'ailleurs, on ne peut plus trop faire ce genre de choses, malheureusement. Merci au gouvernement actuel.
Eh oui. Donc, ça fait un mélange de langues qui est complètement ubuesque. On a l'impression qu'on va vous retrouver en vrac. Et en fin de compte, c'est pas en vrac qu'on vous retrouve, c'est bien planté dans le sol, dans le studio, dans le fauteuil du studio. Mais vous êtes vraiment complètement dans l'équilibre de toutes ces civilisations, de toutes ces langues, de tous ces apprentissages.
Oui. Après, il y a une partie de ma vie, on va dire adolescente, où ça s'est fait de manière très naturelle et empirique, parce que j'étais aussi confronté régulièrement au collège, notamment, où j'ai eu beaucoup d'amis qui étaient originaires de plein de pays d'Afrique. Ça allait de Djibouti au Burundi, au Rwanda, Centrafrique, Congo. Tous ces gens-là avaient déjà des cultures, qui n'étaient pas monolithiques, puisqu'on parlait ensemble en français. Parce que par l'échange, par la situation géographique, on parlait un peu arabe aussi tous. Par la proximité, des mots de Swahili ou autres sont rentrés dans mes oreilles. Enfin, c'était déjà assez naturel d'être métissé, on va dire. Et même si c'est un métissage un peu, effectivement, ubuesque, c'est un métissage aussi, quoi, quelque part. Et après, voilà, il y a toujours, dans l'identité, il y a toujours, je pense, une de nos identités qui prend un peu le dessus, que ce soit pour des raisons familiales ou affectives. Et c'est un peu comme ça que j'en suis venu à l'occitan. C'était déjà présent, mais de manière très minorisée dans ma vie, puisque je n'ai pas grandi dans une famille occitanophone. Mais néanmoins, ma mère connaissait plein de chansons et de phrases et de choses qui ont toujours été présentes dans ma vie. Et à un moment donné, quand je suis arrivé en France, je me suis retrouvé face à un choix aussi que j'ai dû faire, parce que je ne savais pas répondre à la question « d'où viens-tu ?». Et du coup, j'ai décidé que je venais d'ici et que ce n'était pas du tout pour exclure tout le reste, puisque je me sens plein de choses. Mais en venant d'ici, puis en choisissant l'occitan, qui a quand même l'avantage d'être une langue construite autour de notre façon de dire « oui », c'était assez ouvert pour que je puisse être à la fois occitan et égyptien et allemand et autres.
Alors votre maman vous a un peu aidé dans cette aventure, puisque on peut dire qu'elle a eu une proximité amicale avec Mondjoy.
Oui, ouais. J'ai grandi avec de la musique provençale aussi, parmi d'autres musiques, hein, puisque mon père écoutait énormément de musique. J'ai grandi avec beaucoup de musique du monde, déjà. Mais parmi toutes ces musiques, il y avait la musique provençale. Et je suis encore à l'heure actuelle ébahi de voir que ma mère connaît par cœur la mazurka Souteliping qu'elle a apprise quand elle était à la maternelle. Donc voilà, c'était présent filigrane. Puis bon, souvent quand j'étais un peu insupportable, elle me disait « Masgoumfla ». Et j'ai mis des années à comprendre que ça s'écrivait en plusieurs mots. Enfin, c'était un peu obscur pour moi. Mais... enfin, voilà, puis l'été, je venais en vacances aussi chez ma grand-mère en Allemagne, mais aussi chez ma grand-mère à côté de Marseille. Donc même si ça ne parlait pas forcément provençal, j'étais en contact avec une famille provençale. Enfin, dans ma famille, on est très... très attaché à beaucoup d'aspects de notre provençalité, notamment autour des fêtes de Noël. Il y a plein de choses, la crèche, les trois nappes, plein de choses qui sont hyper importantes, quoi.
Donc voilà, vous êtes un provençal qui s'ignore pas, bien construit. Et justement, cette diversité de langues, cette diversité de cultures, est-ce que cela vous amène à plus de compréhension de l'autre ?
Forcément, je pense que ce que ça, j'y ai réfléchi, hein, parce que ce que ça m'a apporté, c'est une idée toute simple. Quand on apprend qu'une langue, on a des synonymes, mais on n'a qu'une seule syntaxe. Quand on apprend plein de langues en même temps, en étant petit, on apprend déjà d'une part qu'on peut désigner un objet ou une idée par différents mots, d'origine des fois différente, mais surtout qu'on peut construire une phrase qui reflète une pensée de façon différente. Et c'est très, d'autant plus marqué entre le français, l'allemand et l'arabe, par exemple. Ce sont des langues qui ont des structures grammaticales et syntaxiques complètement différentes. Alors effectivement, quand on les apprend de façon naturelle, on n'analyse pas forcément tous ces paramètres, mais on se rend bien compte qu'on peut dire les choses de façon très différente et donc, par voie de conséquence, qu'on peut penser de façon très différente et que ces trois systèmes de pensée cohabitant dans une seule et même personne, en étant moi-même, ça ne peut que m'orienter vers une ouverture d'esprit et oui, voilà, vers une ouverture à la différence de pensée de l'autre qui est... Voilà.
Alors, je vais reformuler ma question, mais d'une façon différente. Est-ce que tout ce boulégadis, comme dirait l'Occitan de service, est-ce que tout ce boulégadis est favorable à votre cheminement? Est-ce que toutes ces langues, c'est perturbateur ou c'est formateur?
Moi, je pense que c'est formateur. C'est formateur. Bon, après, voilà, dans mon cas, et dans souvent le cas des gens qui sont plurilingue de naissance, c'est pas quelque chose qu'on choisit. La seule vraie langue que j'ai choisie, c'est l'occitan, au final. D'autres, par la suite, que j'ai appris et que je maîtrise bien moins. Mais de grandir dans ces langues-là, c'était très ludique pour moi. J'avais une grande fierté à pouvoir parler en anglais avec des amis de mon père ou de ma mère quand j'avais 5 ans. Alors que c'était pas ma langue. J'en avais bien conscience, quoi. Et c'est formateur parce que ça permet aussi une plus grande facilité d'apprentissage d'une nouvelle langue aussi. C'est, ça crée une matrice linguistique qui est beaucoup plus souple, où on s'accroche très vite à des éléments. Enfin, je sais que quand je suis confronté à une nouvelle langue, et j'ai gardé ça depuis tout petit, j'adore quand je vais dans un pays que je connais pas ou peu, j'aime bien y arriver en ayant des bribes de langue déjà. Parce que, ouais, voilà ce que ça m'a appris par exemple, c'est que quand je vais chez quelqu'un, c'est à moi de... J'aime pas y arriver en tant que francophone hermétique, quoi. J'aime bien essayer de dire bonjour, merci, des choses de base dans la langue de la personne qui m'accueille, quoi.
Donc, tout ceci, c'est une ouverture, hein.
C'est une ouverture, je pense, indéniablement.
Bon, c'est la première plage musicale de l'émission. C'est un chant de Rodine.
C'est ça. Là, je suis venu avec des petits cadeaux dans mes poches.
Alors, ce cadeau, c'est quoi ? Parce que
J'ai amené trois morceaux qui sont sur mon album, mais qui n'est pas encore sorti. Lubao, celui-là, c'est une balade, on va dire. Et ça parle... d'un sujet qui me touche beaucoup, l'enfance. Ça parle des enfants qui grandissent sans amour. Et c'est marrant parce qu'on parlait d'enfance avant l'émission et de jeunesse. Et dans le troisième couplet, ça dit fan de beizes pa ventao, et melizes kumes kelifan seizaujou. Ils font des beaux épouvantails avec les défis que leur laissent leurs aïeux. Et voilà. J'avais oublié cette phrase, mais ça m'a fait sourire.
Elle est très belle.
Et puis, c'est plein de. Ce disque est plein d'invités. Ce morceau est un bel exemple où on a Hugo Lins, qui est un joueur de viola du nord-est brésilien. On a Romain Colotti, qui s'appelle Paibou aussi, qui vient de Pau, qui est dans Famille Artus. On a Loïc Wojstrowski, qui est le batteur qui joue sur ce morceau, qui a fait les tournées d'Ayam, qui est un Marseillais. On a Audrey Coco au violon, qui était une stagiaire du studio au moment où on a enregistré, qu'on a invité de manière un peu impromptue. Il y a Valentin Laborde, qui joue de la vielle aussi, qui vient de Pau. Sur ce morceau, il y a aussi deux petits qui étaient en camp de vacances à PLV, Provença ou Lengue Vive, qui est une association qui organise donc des camps de vacances pour les petits en provençal. Et il y a le Chœur de la Roquette, qui est un ensemble de six chanteuses qui viennent d'Arles, avec qui j'ai travaillé. Et voilà, il y a beaucoup de monde de plein d'endroits différents qui se rencontrent sur ce disque, et je trouve ça assez... Moi, ça me touche humainement que j'ai pu rassembler tous ces gens.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un disque d'amitié, de fraternité, ou est-ce que c'est une usine à gaz ?
Un peu des deux. Non, ouais, il y a beaucoup d'invités sur ce disque. C'est un disque que j'ai imaginé vraiment comme un disque de studio, sans me dire ça, on ne pourra pas le faire sur scène, machin. Vraiment, j'ai pas réfléchi à ça. J'ai invité des gens que j'aime profondément, dont j'aime la musique, des gens que... pour la plupart, je connais. Là, je suis en train d'essayer d'inviter quelqu'un que je connais pas personnellement, mais qui a beaucoup marqué mon histoire musicale. C'est Saul Williams, qui est un poète américain, slammer, qui a d'ailleurs joué dans le film Slam en 96, et qui a beaucoup marqué ma façon d'envisager l'écriture et le rap. Et voilà, donc ça pour l'instant c'est en pourparler. J'attends que j'ai eu son mail personnel de par un intermédiaire. Il sait que je voulais le contacter. Je lui ai écrit. Maintenant, j'attends de voir ce qu'il répondra.
En tout cas, c'est un beau cadeau que vous venez nous faire. C'est un très beau cadeau et on vous en remercie. Il y en aura d'autres petits cadeaux tout au long de l'émission, mais ça ne nous empêche pas d'être sérieux dans cette émission.
Ah ben non.
Nous sommes très sérieux. Alors, soyons sérieux, Rodine, en parlant du ramadan. Parce que tout à l'heure, en préparant l'émission, on en a parlé. Et c'est vrai que pour moi, le ramadan, ça reste quelque chose de très complexe, de très compliqué. Alors que pour vous, ben, ça allait de source. Hein.
Ben, j'ai grandi quasiment 15 ans en pays musulman, donc on ne peut pas y échapper. Je veux dire, c'est comme Noël ici, quoi. Et inversement, on a énormément de gens qui sont musulmans en France et qui fêtent Noël à leur façon, mais qui le fêtent aussi. Et c'est vrai que ben, le ramadan, en Égypte notamment, c'est quelque chose, on ne peut pas y échapper. Enfin, tout le monde le fait. La journée est marquée par la rupture du jeûne où tout le monde mange en même temps après un coup de canon et l'appel à la prière. Donc ça m'est arrivé, pas de manière stricte, hein, mais ça m'est arrivé de le faire souvent. Et la première année que je suis arrivé en France, effectivement, je l'ai fait un peu par nostalgie ou par habitude. Enfin, en tout cas, c'était un point de repère. C'est un point de repère dans ma vie, quoi.
Alors, habitude, coutume, c'est pas religieux tout ça pour vous ?
Non, mais en même temps, la pratique du jeûne, elle existe aussi dans le christianisme. C'est pas au-delà de l'aspect religieux, c'est une pratique humaine qui n'est pas forcément néfaste. Mais oui, en tout cas, quand j'étais en Égypte ou au Liban et que ça m'est arrivé de le faire, on le fait comme par sympathie aussi, parce que voilà, comme quand on invite des amis musulmans ou juifs à Noël. Ça peut arriver, ça existe.
Vous aimez l'Égypte, hein ?
J'aime beaucoup l'Égypte, ouais. Ça reste un pays très très important pour moi. J'y suis retourné qu'une fois depuis que je suis parti. C'était il y a 3 ans, je crois, pour un concert du Cœur de la Plaine. Et c'était assez surprenant. Parce qu'en fait, j'habitais 8 ans, pas très loin de l'aéroport. Mais malgré le fait que j'y habitais petit, je connais encore cette ville très bien. Et dès qu'on s'est retrouvé dans le taxi, j'ai parler en arabe avec le chauffeur et j'ai avec l'accord des autres, hein, j'ai dit, je vous montre mon quartier. Et effectivement, j'ai guidé le taxi jusque là où j'habitais, alors que ça faisait plus de 20 ans que j'y étais pas allé, quoi.
Il y a une certaine nostalgie dans ce que vous dites, hein, mais aussi un amour profond de cette langue, de ce pays.
Ouais.
Il y a de l'émotion qui passe là.
Et oui. Il y a de l'émotion parce que quand on est petit, malgré la bienveillance des parents quelque part, on n'est pas décisionnaire, donc on est un peu arraché à tout ce qui est notre quotidien quand on s'en va. Donc ça, c'est difficile. De l'émotion aussi parce que c'est un pays qui a connu des événements politiques importants et qui est passé à côté de enfin qui est passé qui s'est fait voler son émancipation. Après, j'ose espérer que ce n'est que partie remise, mais voilà, c'est un pays, enfin j'imagine, comme pour tout le monde, le pays dans lequel on grandit et dans lequel on grandit heureux, ça reste le plus beau des pays.
La pluie, pareil c'est qui d'arrière au bar, liés en calamar. Que la pluie, que la sur notre vie de l'usson, ravios. Maillir, enfant pichounette, voilà les vivre, maillir. Fan pichonet, voilà l'estat rich. Car la pluie, derrière le fil de fer, il paraît qu'il y ait un peu de rire. Car la pluie, car voilà sur notre terre Codaccio et ce carnaval. Ma io e fan piccionette, vuoi vivere, vuoi vivere. Ma io e fan piccionette, vuoi stare ricci. Pluia, picciuna discesa in annata senza rendire. Cala la pluia, cala su lumi umore sull'ete, sotto la pluia. Ma io, e fan picciune, vuoi vivere, vuoi vivere. Ma io, un piccionetto fuori sta dreci cara la pluia
Maurice.
Ouais,
je l'ai dit presque comme si c'était le prénom Maurice, mais
c'est
Maurice.
Ça, c'est Maurice.
Maurice,
c'est juste que c'était son prénom, effectivement.
Et donc c'est le pays de Nice, hein.
Ouais, c'est ça, une forme orientale de la province. Maurice, c'est un chanteur, poète, qui a beaucoup chanté. Alors, je ne sais pas si ce morceau en particulier a été écrit par Alain Peyon, mais beaucoup travaillé avec Alain Peyon, qui était un poète aussi du pays niçois, de Coiraz. Et j'ai découvert ce disque il y a quelques temps. Je connaissais Maurice de nom, hein, je ne l'ai jamais rencontré de son vivant, mais c'est son premier album, Vio Redré. Et je trouve que c'est vraiment un très très beau disque. Et je pense que les musiciens occitans actuels, alors je dis pas tous, hein, mais je pense qu'on oublie trop souvent cette époque-là de la Novo Canção. Et alors je sais pas si lui s'en réclamait particulièrement, mais on va dire cette époque entre 60 et 70, 80, qui a vu beaucoup d'auteurs. En fait, de chanteurs à texte en occitan. Et il y a eu énormément de choses qui sont très belles et qui m'ont beaucoup marqué au fur et à mesure que j'ai découvert et qui m'ont beaucoup donné l'envie de m'inscrire dans une sorte de filiation de ce mouvement musical. Alors, pas forcément pour des questions de style, mais plus dans une question de démarche. Voilà, je suis très attaché à l'écriture, hein, l'écriture de mes propres textes, à l'écriture de choses qui me sont personnelles, soit dans certains contextes, comme avec UA, j'écris des choses qui sont plutôt, qui relèvent plutôt de l'engagement et de la révolte. Dans mon prochain disque Pentaclus, ça sera beaucoup plus de choses personnelles qui ont trait à l'amour et l'enfance. Et d'ailleurs, je n'avais pas réfléchi en choisissant ce morceau, mais il parle aussi d'enfants. Maillot, enfant pichouné, voili vivre et voili vivre. Voili estadré. Moi, petit enfant, je veux vivre et je veux être droit. Ça me convient.
On est complètement avec ces résurgences, j'ose le mot, dans la transmission de votre démarche. Et dans cette démarche, vous parlez de. Des chanteurs donc des années 70. Qui c'est qui vous a marqué profondément?
À quel moment?
Par rapport à l'écoute que vous pouvez en faire, par rapport à la substantifique moelle que vous en retirez, par rapport à votre création, quels sont les chanteurs ou les chanteuses qui ont compté pour vous? Plutôt les chanteurs, parce que les chanteuses, hélas, il n'y en a pas eu beaucoup, mais...
En occitan ou d'une façon générale? En occitan,
oui.
De cette époque-là, en occitan, Maurice, ça reste un de ceux qui m'ont le plus touché, peut-être pour ce côté plus personnel aussi des textes de Peyon. Après, effectivement, j'ai aussi écouté Marty et Mans de Breich et d'autres. Je suis en train d'explorer un peu. Juan Pau Verdier. Qui m'interpelle pour son côté pop, justement. Qui était, voilà, un côté synthétiseur que les autres n'avaient peut-être pas. Après, ouais, effectivement, il y a eu quand même pas mal de chanteuses. Alors là, en ce moment, je parfais mon éducation sur, sur cette époque-là. J'échange régulièrement avec Jordan Saïset, qui travaille au CIRDOC et qui tient la page Facebook Novokansu Citane, que je vous recommande d'ailleurs. Et il y a Nicole aussi qui a écrit des choses, qui a fait des très beaux disques à cette époque-là. En fait, pour moi, il y a eu deux courants qui se sont mélangés. Enfin, je pense que tous les musiciens de cette époque qui faisaient de la chanson de création ont aussi un peu fait de la réinterprétation de chansons traditionnelles. Il y a eu vraiment le courant revivaliste qui s'est beaucoup plus focalisé sur les musiques traditionnelles comme Perlimpinpin ou Moonjoy ou d'autres. Mais moi, c'est vraiment cet aspect créatif et d'utilisateur de la langue dans un contexte de communication musicale qui m'intéresse. Parce que c'est un peu ce que je fais à ma manière avec les éléments qu'on a maintenant. C'est-à-dire qu'ils écrivaient des textes en occitan et ils les chantaient en utilisant des codes musicaux que leurs contemporains pouvaient appréhender. En l'occurrence, là, avec Maurice ou même Mans de Breche ou autre, ils utilisaient des éléments du folk américain, on va dire, avec l'accompagnement à la guitare, qui était la musique que les jeunes écoutaient à l'époque, avec Bob Dylan ou d'autres, quoi, ou John Baez. Et du coup, je pense que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça permet à l'auditeur d'avoir une porte d'entrée vers un univers musical où l'expression se fait dans une langue qu'il ne comprend pas a priori, ou en tout cas dans sa grande majorité. Ça permet de dépasser l'espèce de barrière linguistique dont on nous rabat les oreilles dès qu'on peut quand on dit qu'on chante en occitan. On chante en occitan certes, mais on fait de la musique avant tout. La musique, ça reste un langage universel que tout le monde peut appréhender, même sans comprendre les paroles, quoi.
Je crois que vous êtes en train de nous inventer ou de réinventer l'aujourd'hui de la musique, hein, de la musique occitane, entre autres. Parce que, quelque part, quand on vous écoute, on a l'impression que vous allez puiser dans des racines, que par le biais d'une transmission, vous êtes très très moderne, mais bon, voilà, c'est qui est figé. C'est pas vous.
C'est pas moi, non. C'est souvent même des gens bienveillants qui s'en rendent pas compte, mais. Je me suis fait la réflexion un peu dure il y a quelques temps. Je me suis dit, en France, en tant qu'artiste occitan, quelle que soit notre forme d'expression, on est toléré. On va pas dire qu'on est interdit. Voilà, on a le droit de faire de la musique ou du théâtre en occitan. C'est tout à fait toléré. Mais il y a une forme inconsciente de cadre de tolérance. C'est-à-dire, quand on fait de la musique en occitan, on est toléré dans le cadre du bal, on est toléré dans le cadre de la polyphonie ou de la réinterprétation de notre tradition. Mais dès qu'on en sort, on est confronté à une espèce Enfin, je pense que le milieu professionnel français, que ce soit la presse ou le professionnel de la musique, en fait, si on n'est pas dans ces cadres-là, ils ne savent pas trop quoi faire de nous. Donc, du coup, ils n'en font rien. On se retrouve un peu face à un mur. Et moi, qui suis depuis mes débuts d'artiste solo dans une volonté justement d'essayer de faire de la poésie expérimentale, d'essayer de faire en sorte que toutes les musiques qui ont jalonné ma vie et qui m'ont plu et qui ont compté pour moi se retrouvent dans un projet musical où il y aura aussi bien du trap que de la chanson, que de la poésie dite, que de la pop. Choses qui sont possibles pour un artiste anglophone, par exemple, des gens comme Bon Iver ou plein d'autres. Hein. Une espèce d'étiquette pop alternative qui passe quand c'est en anglais, ou je sais pas, Woodkid, par exemple. Dès que c'est pas en anglais ou en français, et que ça utilise une langue qui est inconsciemment rangée dans une boîte bien gentille de folklore, et en fait, c'est comme, enfin, voilà, on est toléré, mais pas vraiment respecté. Pour moi, il y a une différence. Le respect consisterait à considérer qu'un artiste d'expression francophone, anglophone ou occitanophone devrait avoir accès au même lieu de diffusion, à la même exposition médiatique, mais c'est pas le cas.
Est-ce que vous pensez pas, que ceci est lié à la structuration française, tout simplement?
Je pense, hein, c'est lié à la structuration française, mais surtout, j'allais dire, franco-française. C'est-à-dire que cette considération-là, le milieu français, là, pour nous, les occitanophones, corsophones, britophones, c'est les gens qui s'expriment en langue régionale. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie qui est très présente. La langue régionale, elle est en dessous. Dès qu'on sort du périmètre de la métropole et des dom-toms, ouais, il n'y a plus de problème. Personne ne demande si Youssou N'Dour chante en langue nationale ou régionale. Enfin, voilà, dès que ça vient de l'extérieur, c'est exotique, on s'en fout. Mais à l'intérieur, voilà, on a cette espèce de colonisation qui, invisible, inaudible, qui, voilà, on ne veut pas. C'est un truc dont on ne parle pas. Et pourtant, ça a eu lieu. Ça a eu lieu, la France a envahi ses territoires, a fait en sorte que ces gens-là arrêtent de parler leur langue et parlent le français de manière plus ou moins agressive au fil du temps. Et nous, on est encore là. On est encore là, pas contre l'État français, pas contre la langue française, puisque voilà, preuve est que la totalité des gens qui parlent une langue régionale parlent très bien le français. Donc on n'est pas une menace. Ce qu'on veut juste, c'est être pleinement nous-mêmes et pouvoir nous exprimer dans la langue qui nous est chère sans que ça soit forcément un handicap, quoi.
Les contours de ta peine, l'humeur douce de ton tour, le goût d'une tunisa. Che battega, ti fa danzare sulla puncia dei miei mani, frustati buco come malengo, tasta luce di tuo amo, senti ton pitre che battega.
C'est la deuxième pépite que vous nous offrez.
C'est ça.
Et alors cette pépite, elle montre quoi? Elle est pédagogiquement, c'est quelle est votre volonté derrière tout
quelle
cela?
Est ma volonté déjà de faire un morceau sur mon album avec Huey, qui sont donc les copains de mon groupe, du groupe que j'ai monté il y a 3 ans avec Denis Saint-Pierry. C'est lui qui a fait l'instrumental d'ailleurs. Pédagogiquement, c'est de pouvoir dire, je sais pas moi. C'est écrit en, voilà, je chante en occitan, une chanson très sexuelle sur de la musique qui mélange entre de la synthwave et de la techno minimaliste allemande, je sais pas, ça pourrait être Gesaffelstein aussi, je sais pas. Mais de dire que voilà, c'est possible.
C'est vous quoi.
Ouais. C'est une des facettes de moi, c'est de la musique que j'écoute aussi, voilà. Que j'avais envie de faire et je me suis dit pourquoi je devrais pas le faire.
Pourquoi pas. Pourquoi pas.
Senti ton pitre che batenga l'udo de ton pitre la mouissou de ton pied l'esquide
Avec Rodine, on est vraiment dans un monde à part. Tout à l'heure, on parlait, alors on ne va pas dire les ennemis, mais bon, de la difficulté des fois d'imposer, entre guillemets, la langue occitane. Est-ce que vous ne pensez pas que par rapport à la langue occitane, nous sommes aussi confrontés à des ennemis de l'intérieur ?
Peut-être, je ne sais pas si les mots ennemis imposés sont forcément les bons, mais c'est vrai que dans tous les cas de figure où on est sur de la langue régionale, on est dans une situation de danger et de risque d'extinction, de disparition, de plein de choses, donc de savoir faire et de savoir dire. Et du coup, la volonté souvent bienveillante finit par être un peu mortifère. C'est-à-dire quand on veut garder notre culture en vie, il y a un petit côté quand même où on tient la main du mourant, quoi. Et ça, c'est pas quelque chose que je peux juger, mais c'est quelque chose que je trouve dangereux. C'est quelque chose qu'il faut faire immanquablement, collecter, emmagasiner le maximum de savoir présent encore chez de savoir populaire, qu'il soit linguistique ou tout autre d'ailleurs, tant que les gens sont là, tant que les gens qui l'ont eu dans une transmission naturelle sont là, mais par ailleurs, s'empêcher de transformer les choses ou de faire des choses nouvelles, c'est dangereux aussi. Parce que par affection pour un passé qu'on a connu ou qu'on a fantasmé, on se coupe du temps qui coule, et ça, tout le monde y est sujet, qu'on soit occitan ou autre. Le temps passe, les expressions artistiques collectives au niveau international passent aussi. Et je sais pas, moi, vous avez dit moderne tout à l'heure, je sais pas si je crois que c'est pas du tout une chose à laquelle je pense, la modernité. Je crois que j'essaie d'être moi-même le plus possible avec mes contradictions de d'homme moderne, de que pas d'être écologiste et d'avoir un télé, un smartphone par exemple. et la seule chose, c'est que j'essaie d'être ce moi-même là qui est un artiste et qui s'exprime en occitan. Avec mon bagage actuel, mais aussi mon bagage culturel occitan, j'essaie d'y piocher dedans de façon très libre et sans complexe.
Alors, dans votre modernité, ne vous en déplaise, est-ce que votre part d'allemand, au sens noble du terme, ne vous amène pas vers un concept politico-philosophique qui est lié au fédéralisme, par exemple, et qui vous irait bien mieux, vous aurez une expression bien plus libéré dans un espace fédéral.
Sans doute, c'est quelque chose. Enfin, le fédéralisme, c'est une réalité politique dont j'ai fait l'expérience sans réellement m'en rendre compte. Hein. J'ai jamais vraiment vécu en Allemagne, mais j'ai toujours été connecté à la réalité de quand je rentre en Allemagne dans ma ville à Francfort. C'est dans un land particulier qui s'appelle Hesse. C'est dans un pays particulier qui s'appelle Taunus. Et toutes ces réalités-là sont des réalités qui, au-delà d'être des réalités simplement toponymiques, comme on aurait maintenant en France le Rouergue ou le Ségala, sont des réalités politiques aussi. Et ça, j'en ai vu aussi les effets dans la vivacité des dialectes allemands. En Allemagne, beaucoup de gens, voire quasiment tout le monde, parlent allemand et dialecte. Alors, c'est un pays qui s'est construit linguistiquement aussi sur des territoires qui partageaient la même langue, hein, ce qui n'est pas le cas de la France. La France, c'est que, rien que sur la métropole, déjà, c'est compliqué. L'Allemagne a, comme l'Italie, cet avantage-là d'être un pays construit sur des territoires qui partagent des dialectes d'une même famille. Mais n'empêche que j'ai pas, à ma connaissance, vu de mouvement de défense des dialectes ou de préservation, parce que il y a beaucoup moins d'attaques. Moi, j'ai entendu à l'aéroport de Munich, qui est, je crois, le deuxième plus gros aéroport du monde, des annonces en bavarois. C'est pas, personne n'a crié au scandale, hein. Parce que l'aspect populaire aussi en Allemagne est très présent. C'est quelque chose qu'on a du mal. Je pense que les Français connaissent très mal l'Allemagne, en fait. Les Français, ils ont une image biaisée par la guerre, biaisée par Papa Schulz et par bien d'autres choses. L'Allemagne, c'est un pays très populaire. Il y a beaucoup de fêtes populaires, où, même dans des très grandes villes, il y a des carnavals extrêmement subversifs qui sont des carnavals municipaux, qui sont ouverts par le ou la mère en costume traditionnel de carnaval. Il y a des moments, que ce soit Noël ou la fête de Francfort, c'est en septembre par exemple, où il y a énormément, quasiment tout le monde sort du boulot et mange dans la rue. Donc il y a une convivialité et un côté justement populaire qui est très fort, qu'on a eu en France certainement, qui persiste encore, mais qui est quand même régulièrement attaqué par des volontés politiques. En France, on ne veut pas qu'on se rassemble, qu'on mange ensemble, qu'on discute. En Allemagne, c'est encore très présent. Et culturellement et politiquement, du coup, ça donne lieu à une émancipation quand même plus grande des différences et des spécificités. Je sais qu'à Francfort, par exemple, il y a une chaîne de télévision locale. Il y a énormément de chaînes locales, en fait, que ce soit à la radio ou à la télé. Et les chaînes municipales, par exemple, offrent à toutes les communautés présentes dans la ville un moment de diffusion. Donc, sur la chaîne de télé de Francfort, j'ai vu des émissions érythréennes, j'ai vu des émissions en arménien. Voilà. Alors, je dis pas que le modèle allemand est forcément meilleur sur tous les points de vue, hein, mais en tout cas, du point de vue culturel et de l'acceptation de la diversité, c'est quand même un peu plus... Ça me convient beaucoup mieux. Je disais tout à l'heure avant l'émission, c'est peut-être un fantasme, mais je rêve d'une France et d'une Europe fédérale, où la dimension de nation qui domine la région s'évaporerait au profit de petit pays en paix, je précise bien, puisque dès qu'on part sur ce terrain, les boucliers se lèvent en mode « oui, mais vous voulez la balkanisation, machin ». On voit ce que ça a donné, ben pas forcément.
Il y a un dernier terrain sur lequel je voudrais vous amener, c'est le terrain de votre travail. Alors évidemment, on l'a dit, hein, vous êtes chanteur, vous êtes fleuriste.
J'ai voulu être fleuriste à un moment.
Voilà, c'était pour la boutade. Mais vous êtes aussi formateur et vous faites des interventions, et notamment grâce aux scènes croisées de Lozère, vous avez travaillé à Saint-Alban.
Oui.
Et j'aimerais bien qu'on finisse l'émission sur Saint-Alban, parce que je pense que vous êtes un homme, Rodin, qui aimait les hommes. Et pour aimer les hommes, ben, il faut des fois se confronter à des projets. Et le projet que vous avez eu donc avec Scène Croisée, c'est un projet sur des gens en difficulté psychiatrique, on va dire, tout
ouais,
simplement.
Oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce que vous en ressortez de tout cela?
Eh bien, j'ai passé une semaine sur place avec une danseuse chorégraphe taïwanaise qui habite à Montpellier, qui s'appelle Yifang Lin. Et on s'est rencontrés un peu autour de ce projet, en fait. Donc, on avait pour mission à la fois de faire des ateliers quotidiens avec les patients et le personnel soignant et de faire une restitution d'un travail en binôme pour, pareil, les patients principalement. Et bon, c'était assez ouvert. Et c'est vrai que ce que j'en retiens, c'est que... Et je pense que j'ai jamais eu vraiment d'a priori sur la psychiatrie, mais je savais pas à quoi m'attendre. Et bon, à travers les films, on voit forcément le pire de la psychiatrie. On imagine que ça va être violent. Alors après, effectivement, les patients qui sont présents en atelier sont des volontaires, des gens qui sont aussi sélectionnés par le personnel soignant, mais ce que j'en retire, c'est que j'ai été très touché des rencontres que j'ai faites avec des individus qui ont une grande beauté d'âme, finalement, qui sont en souffrance, pour certains, souvent, qui l'expriment, mais qui sont aussi dans une capacité de nous rappeler que le bien-être et le bonheur tiennent à parfois très peu de choses. Ce qui va être un exercice de champ pour nous qu'on va survoler en temps normal, on va dire, lors d'un atelier avec des adultes en dehors de l'hôpital, prend une dimension de suite ludique, une dimension de reconnexion des individus avec une forme de corporalité, des individus entre eux. Et voilà, moi, ce que j'en ai retiré, c'est beaucoup, ça m'a beaucoup touché, ça m'a donné envie d'y retourner, et surtout ça m'a fait réfléchir sur la norme. Alors c'est une notion à laquelle on est confronté aussi en tant qu'occitanophone, puisque quelque part on vit dans un pays où on n'est pas dans la norme. La norme, quelque part, voilà, c'est assez clair, c'est de parler français et seulement français, puisque que ce soit l'occitan ou l'arabe ou n'importe quelle autre langue, dès qu'on parle autre chose, c'est suspect. Mais voilà, ça va bien plus loin que ça. La norme, c'est... Tous ces gens qui sont en psychiatrie, c'est des gens qui sont en dehors de la norme, au-delà de l'aspect médical. Je veux dire, même les malades, qui sont les malades dans les hôpitaux normaux, je perds mes mots, mais les malades tout court, l'hôpital, c'est à la fois un lieu de soins, mais c'est aussi un lieu d'exil, quelque part. On enlève ces gens-là de la vie courante, on ne veut pas les voir. Et ça, voilà, ça m'a posé cette question-là de se dire, bon, finalement, cette exclusion systémique, elle est présente à tellement de niveaux et elle est tellement injuste. Parce que, voilà, quel que soit le... Moi, j'ai appris des choses dans mon humanité de personnes qui sont exclues, au final.
Je crois que le choix de cet album, le choix chargé de ce lieu... où il s'est passé des tas de choses par rapport à la psychiatrie, mais par rapport aussi à la résistance, par rapport à la protection, par rapport à la liberté, par rapport à la liberté de conscience, on peut aller jusque-là. Ça nous ouvre la voie de notre dernière pause musicale qui s'appelle Les ailes du temps.
C'est ça, Les ailes d'automne.
Alors, Les ailes du temps, ça sera la fin de cette émission. Rodine, on va vous... Oui, Raboudine, je me mélange les langues, moi aussi. Mais on va finir sur cette chanson-là, qui est la dernière, le dernier cadeau que vous nous faites. Je vous en remercie. Je vous remercie aussi du temps que nous avons passé, du temps que vous nous avez donné et de votre amabilité.
Eh bien, et mes grands plaisirs. Visca vem pa, ai pa presluten de parler nous si tant pas, mais à qui? À Kabi Kumako.
Sur les ailes d'automne, les âmes sont en escure déco. Sur l'ouvert dans le désert, dans tes dents d'espace.
La de gente sa bon come lo tempa se io va sabi pa come le tempeste passano sulla vita io va sabi trop. Sai pa où est de dire tem fages pa. La de gente senza betan come d'argent senza bus se sian ensien. Est-ce que la de sense encare che sian da che le gente sensiao. Faut que m'invagissio per tourna comme magicien. Qu'un signe cette signe de yeux sont prascussier ou liga comme sian laura plus de tempeste en tout sein. Reste bien comme sieste, faut cagé si un fils comme notre femme perd 13 ans. Les nouvelles de ce fille loin, la vie de simple des gants et rien, enfin. Diloute, dijou, les gars, tiens, l'observe, tu utilises le doté. T'espéritant. Que la calme venga c'est d'une ton esprit et qu'espéris c'est le camp de ton corps féri. Et mis le flou par veille et ton sourire et comme les amis vins. Passe à ma main sur ta gaute fresquette comme les gènes de la mouffin. Si un tué et ou un saint, les gènes d'une légende d'un curassin.
Attitude.
Une émission préparée par Radio Languedoc. Présentée par Jean Tufou. Réalisée par William Baudry.